RCF.
La solitude est bien mal considérée par nos contemporains. C'est pourtant une école de vie pour apprendre à se connaître, pour oser être soi-même hors des regards critiques ou approbateurs. Oser la solitude, c'est oser une liberté. Doit-on pour autant se couper des autres et demeurer dans sa tour d'ivoire? Question que nous aborderons aujourd'hui avec vous, Jacqueline Kellen. Nous nous retrouvons. Vous dites que, contrairement aux apparences, ça n'est pas parce que l'on s'accorde des moments de solitude que l'on se replie sur soi.
Non, c'est une autre façon d'entrer en relation. C'est plus profond, c'est plus discret. C'est peut-être moins visible, c'est beaucoup plus ouvert. Je n'ai pas d'autre terme à chaque fois que la solitude, c'est ouvert. Il n'y a pas d'autre terme. C'est amusant parce que la plupart du temps, on croit que la relation, amitié, amour, c'est être ensemble, c'est être attaché, c'est ne pas être séparé, c'est être complice, c'est se tenir la main, etc. Ne pas se lâcher l'un l'autre. Et ce qu'apprend la solitude, c'est qu'on est peut-être beaucoup plus profondément et irrémédiablement lié, même dans la distance, même dans l'éloignement et même dans la mort. Ça nous renvoie à cette justement ce qui fait l'engagement de toute relation, qui est l'engagement du cœur et qui ne se détruit pas parce que les circonstances extérieures s'abolissent. Alors, quand on parle de solitude et de relations, je trouve qu'il y a une grande vertu à savoir vivre seul. C'est qu'à ce moment-là, les relations que nous avons ne sont pas intéressées. Elles ne sont pas suspectes d'intérêt. C'est-à-dire, si j'ai peur d'être seule, si j'ai peur de passer une fin de semaine toute seule, eh bien, à la limite, je vais vite téléphoner, je vais me précipiter sur le premier rendez-vous possible et d'une certaine façon, l'autre va m'apporter, va combler ce manque en moi. Et beaucoup, malheureusement, de couples se fondent là-dessus en disant, sous prétexte qu'on est complémentaires ou je ne sais quoi, l'autre va m'apporter ce qui me manque et l'autre va me rassurer ou je ne suis pas ceci mais l'autre est cela, donc il y a une complémentarité. Bon, je trouve ça quand même très inquiétant parce que ça veut dire que non seulement je demande à l'autre de, je fais peser sur ses épaules quelque chose d'énorme, à savoir qu'il vive une partie de ma vie à ma place, ce qui n'est quand même pas son rôle, et en même temps ça veut dire que je suis infiniment dépendante aussi. Alors la solitude, si j'assume ma vie, mes choix, mes pensées dans la solitude, sans les béquilles, sans les approbations d'autrui, eh bien, je me dis que si j'ai une relation d'amitié ou d'amour avec quelqu'un, eh bien, c'est gratuit. C'est-à-dire, je peux vivre sans lui, je peux respirer sans lui, je peux aller au cinéma seul, je peux partir voyager seul, je peux marcher seul, le coucher de soleil ou le lever de soleil est magnifique, que je le regarde seul ou que je le regarde à deux. Alors en effet, certaines amitiés, un amour peut multiplier cette joie, cette beauté de l'instant, cette profondeur de l'instant, mais quand l'ami n'est pas là, quand l'autre n'est pas là, je ne me retrouve pas démunie de tout. Ma richesse est intacte parce que ma richesse, c'est cette solitude. Et puis il y a dans la solitude, quand je dis que c'est un état propice à la relation, c'est-à-dire, j'allais dire, c'est dans tous les sens, c'est-à-dire la relation humaine, mais la relation avec le haut, on l'a dit déjà, mais aussi, c'est un monde de présence, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Dans la solitude, il y a des présences, souvent dans la vie quotidienne, il y a des silhouettes, des peu de visages, très peu de visages, beaucoup de figurants. Il y a peu d'êtres vivants, beaucoup de figurants, beaucoup de comédiens, au sens péjoratif du terme, et non exact, et très peu d'êtres vivants. Dans la solitude, je découvre un monde infiniment bruissant de présences, et ces présences ne sont pas qu'humaines. Et c'est pour ça que ça peut, non pas inquiéter, mais troubler énormément, parce qu'à ce moment-là, la moindre présence d'une fleur, d'une pierre, d'un arbre qui bouge à la fenêtre, d'un ray de lumière sur la table ou sur le bureau, tout ça est infiniment puissant. Donc c'est un monde de présence. Et nous oublions souvent, en vivant en société, nous oublions souvent toute cette richesse des présences, parce que pour nous, la relation, la plupart du temps, se limite, je dis bien se limite à l'être humain. Nous parlons des frères humains. Dans la solitude, eh bien, il y a les frères animaux, les frères et sœurs pierres, plantes, etc. Et frères nuages, etc. Donc, la solitude est cosmique. C'est vraiment une ouverture à un lien très rayonnant.
Jacqueline Kellen, vous expliquez que les grands mystiques vont jusqu'au bout de la solitude, une solitude qui nous paraît peut-être à nous excessive. C'est dans cette solitude qu'ils vivent en union avec la création tout entière. Alors on peut penser par exemple à Saint François d'Assise qui louait la création entière.
Bien sûr, et qui louait Dieu à travers cette création. Il disait que tout chantait les louanges de Dieu. Oui, et non seulement François d'Assise est le grand exemple, enfin le merveilleux vivant et tendre François d'Assise. En même temps, ce qui est beau, ce qui me plaît dans cet exemple que vous prenez, c'est ce sens de la louange. Quand je disais que la solitude est un état de joie, un état joyeux, et non pas sinistre, ni triste, ni plaintif. La véritable solitude est un état où on a envie de louanger, de dire merci. La plupart du temps, quand on est plongé dans les affaires du quotidien et quand on est... bon, c'est peut-être un peu comme les rats dans une cage. On essaye de se faufiler et de se ménager un peu d'espace vital et on se cogne les uns aux autres. On se cogne au monde dans la vie de tous les jours. Et la présence de l'autre est souvent agressive ou sentie comme une limite, comme une entrave. Dans la solitude, tout ça s'élargit, s'apaise et en effet... Il y a le grand chant de la reconnaissance qui peut commencer. C'est important parce que le cœur se dilate. Le sens de la solitude, en effet, est de faire oublier toutes les scories de l'existence pour ne faire place qu'au chant pur, oui, au chant de la beauté.
Il y aurait quand même un paradoxe dans la solitude puisque plus on se détache de l'autre, plus on ressent une présence. Or, souvent, nous vivons les uns collés aux autres et on ne peut pas rentrer dans cette présence.
Oui, c'est le paradoxe et c'est ce paradoxe magnifique qu'ont essayé de, non pas résoudre, parce qu'on ne peut pas le résoudre, mais qu'ont essayé de mettre en œuvre les troubadours et les dames courtoises au XIIe siècle. Il ne s'agissait pas de vivre ensemble, mais de se sentir à jamais... inséparables, non séparés, donc malgré l'absence. Ce qu'ils ont cherché, ce qu'ils ont vécu, c'est pas simplement de la théorie, ce qu'on peut vivre encore, nous, de nos jours, ce n'est pas limité au XIIe siècle, heureusement, mais c'est eux qui les premiers l'ont tenté, c'est de vivre cette intimité lointaine. Même si l'être aimé est loin, même si je ne le vois pas souvent, eh bien, il demeure vivant en mon cœur. Et il est inséparable, où qu'il soit ou où qu'elle soit. Et cette intimité lointaine avec, sur un plan humain, j'allais dire, amoureux, ça se retrouve dans l'expérience mystique. La grande béguine Edwige d'Anvers, Adévique d'Anvers, disent les Flamands, la grande béguine Edwige donc du XIIIe siècle parlait de son expérience de la divinité comme une présence d'absence. C'est le loin près. En effet. Et alors, nous croyons, nous, que si nous sommes toujours avec l'autre, eh bien, nous profiterons, je fais exprès de prendre le terme, nous profiterons davantage de lui, nous savourerons davantage sa présence. Or, souvent, nous pouvons faire l'expérience que c'est avec du recul, ou peut-être en étant seul, en lui écrivant, que nous sommes peut-être beaucoup plus proches de cette présence aimée.
Alors ça vaut pour les hommes et les femmes que nous côtoyons. On peut parler peut-être aussi de Dieu, puisque effectivement ça peut sembler le grand absent, mais c'est peut-être justement le grand présent.
C'est le grand présent invisible. Oui, et comme nous voulons nous rassurer toujours avec le concret, si ça ne se voit pas, si ça ne se touche pas, ça n'existe pas, là c'est le credo, la vulgate actuelle, en effet, Dieu est le grand absent. Non, Dieu est peut-être, c'est le grand silencieux, c'est celui qui nous demande une grande écoute, une grande disponibilité, ce n'est pas le bavard, en effet, mais nous sommes très bavards, les humains sont très bavards et très gesticulants. Et la solitude, justement, marque un retrait. C'est pour ça qu'elle est toujours sa compagne ou son compagnon s'appelle le silence. Et le couple, c'est solitude et silence, c'est évident. Et le silence, comme la solitude, permet justement de dépasser la rumeur du monde. C'est le fameux éloignement du monde dont parlent tous les moines, que recherchent tous les moines. Et que recherche, encore une fois, tout être épris de profondeur et épris de ce qui ne passe pas. Dès que j'ai envie de dépasser la vie de tous les jours au sens de la condition mortelle, j'ai une soif immense de silence. Chacun peut se sentir ça. Le bruit, c'est ce qui me retient à l'extérieur de moi-même. Dès que j'entre en moi-même, il y a un silence de vie. On parle toujours du silence de mort. C'est étonnant. Alors que le silence de vie, en effet, ça, c'est un témoignage de la présence. La présence, la grande présence invisible.
Donc on ne peut pas rentrer en solitude en faisant l'impasse sur le silence.
Non, et de même, quiconque entre en solitude rencontrera tôt ou tard, ou aura une lueur, ou aura une lueur du grand invisible. Là, il est évident. C'est pour ça que à la fois, c'est un petit peu aussi un cercle heureux. Si j'ai fait une grande rencontre ou si je suis reliée à la divinité, il est évident que je peux vivre vraiment longtemps et souvent seule. Mais de même, si j'entre en solitude, eh bien, la grande porte va s'ouvrir vers le ciel, oui.